Le journal de la rédaction, c'est donc avec vous, Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir Julie Gacon, bonsoir à tous. Aux États-Unis, le président Donald Trump vient d'arriver à Dayton, dans l'Ohio. Dayton, l'une des deux villes endeuillées le week-end dernier par une fusillade. Déplacement délicat pour le milliardaire républicain qui soutient le lobby des armes et qui est accusé d'attiser la violence dans le pays. Grégory Phillips nous attend à Washington au début de ce journal. Aux États-Unis, toujours, le Pentagone constate une résurgence du groupe État islamique en Syrie et un renforcement des capacités en Irak. Un rapport vient d'être publié et pose la question du retrait des troupes américaines, compte rendu à suivre d'Éric Biegala. Au Baléares, en Espagne, le mouvement antitouriste Aran prend de l'ampleur, mouvement violent qui détruit les voitures de location. Explication de Marie-Hélène Ballestero dans un instant. Et puis en France, actualité sociale ce soir, les livreurs de Deliveroo manifestent place de la République à Paris contre leur nouvelle grille tarifaire et plus globalement pour une amélioration de leur statut. Précision de Fabien Cazot à la fin de ce journal. Accusé par ses adversaires politiques d'alimenter un climat de violence aux États-Unis, le président Donald Trump est ce soir dans l'Ohio, puis il se rendra au Texas dans la foulée. Ce sont les deux États qui ont été touchés par des fusillades le week-end dernier, deux fusillades qui ont fait près de 30 morts. Avant de partir pour Dayton, cet après-midi, le chef de l'État a pris les devants. Il s'est défendu d'attiser la haine raciale dans le pays. Les récentes tueries n'ont rien à voir avec le président Trump, a-t-il déclaré depuis les jardins de la Maison Blanche. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Anne.
Vous êtes en direct de Washington. Donald Trump vient d'arriver à Dayton. Comment a-t-il été reçu ?
Écoutez, de manière assez protocolaire par le gouverneur républicain de l'Ohio et par la maire démocrate de Dayton. Depuis une trentaine de minutes, Donald Trump et la première dame Melania se trouvent à l'hôpital de la ville pour rencontrer les équipes médicales, les services d'urgence qui sont intervenus samedi soir et puis des personnes blessées lors de cette fusillade. Le convoi présidentiel est entré par l'arrière de l'hôpital et n'a donc pas vu les quelques dizaines de manifestants réunis devant l'établissement. Sur leur pancarte, il est écrit « Do something », faites quelque chose, et c'est aussi le message que la maire de Dayton, Nan Whaley, veut délivrer au président. Elle l'a dit tout à l'heure sur CBS.
Au lieu de juste des mots, je veux que le président fasse quelque chose afin que ces actes de violence insensés arrêtent de se produire dans notre pays. On connaît le président, il aime dire qu'il agit, mais concernant le problème des armes, rien n'a été fait, juste de belles paroles.
Donald Trump, qui tout à l'heure, avant de quitter Washington, a assuré qu'il était prêt à travailler avec le Congrès sur la question du contrôle des antécédents pour les acquéreurs d'armes à feu. Or, vous savez qu'un texte sur le sujet a été adopté en février dernier par la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, mais que, à l'heure qu'il est, cette loi n'a pas passé la barre du Sénat, dominée par les républicains.
Merci Grégory Phillips pour votre compte-rendu en direct de Washington. Donald Trump qui sera donc à El Paso, au Texas, dans la soirée El Paso, où de nombreux habitants de la ville à majorité hispanique s'opposent aussi à sa venue. En Syrie, un attentat à la voiture piégée a tué 5 personnes, dont 3 enfants, ce midi. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le véhicule a explosé dans le nord-est du pays, dans une province sous contrôle kurde. Attaque revendiquée par le groupe État islamique sur la messagerie cryptée Telegram. L'État islamique qui est loin d'être mort, même s'il a perdu son califat territorial. Le Pentagone vient de publier un rapport à ce sujet. Les capacités insurrectionnelles du groupe terroriste sont même en train de se renforcer en Irak et de reprendre en Syrie. Pourtant, les États-Unis sont en train de retirer leurs troupes, Éric Biegala.
Le rapport de l'inspecteur général du Pentagone, qui est à destination du Congrès américain, pointe en fait du doigt le retrait américain de la zone pour expliquer cette résurgence de l'État islamique. Au début de l'année, Donald Trump avait, de son propre chef, annoncé le repli de toutes les forces américaines hors de Syrie, au moment où l'État islamique pouvait être considéré comme battu. Sur les quelques 2200 hommes des forces spéciales américaines présents à ce moment-là en Syrie, la plupart ont été effectivement rapatriés depuis mars. Seul un contingent résiduel se trouverait encore sur place, alors même, note le rapport, que les SDF, les forces démocratiques syriennes, emmenées par les Kurdes, sont toujours demandeuses de soutien, de formation comme d'armement. En l'état, écrit l'inspecteur général, elles ne sont pas en mesure de tenir correctement le terrain conquis sur l'État islamique, notamment dans la moyenne vallée de l'Euphrate. Résultat, les djihadistes, ils seraient aujourd'hui autour de 15 000 combattants passés en clandestinité, montrent régulièrement des attaques en Syrie contre les Kurdes ou les forces du régime, mais aussi en Irak, où une campagne d'incendie criminel a pu ravager une partie des provinces nord du pays ces derniers mois. En Syrie, les Kurdes des SDF ne sont pas non plus en mesure de contrôler efficacement les quelques 10 000 prisonniers qu'ils détiennent. Dans certains camps, comme Al-Hol, dans le nord syrien, prévient encore l'inspecteur général, l'idéologie de l'État islamique, le djihadisme, est toujours largement diffusée et l'État islamique serait en mesure d'y recruter ou de réactiver d'anciens militants qui s'étaient retirés du champ de bataille au début de l'année.
Précision signée Eric Biegala. Et puis concernant l'attentat à la voiture piégée qui s'est produit ce matin en Afghanistan, à Kaboul, le bilan a été revu à la hausse. Il y a au moins 14 morts et 145 blessés, dont une majorité de civils. Attentat revendiqué par les talibans. Il fallait s'y attendre, le ton monte entre l'Inde et le Pakistan. Deux jours après la révocation par New Delhi de l'autonomie historiquement accordée à la partie indienne du Cachemire, Islamabad expulse son ambassadeur indien. Mais pas seulement. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais annonce la suspension du commerce bilatéral avec Delhi. Les derniers développements avec Sébastien Farsi.
L'Inde devait s'attendre à ces répercussions. L'abrogation autoritaire de l'autonomie du Cachemire indien assoit en effet définitivement la souveraineté de New Delhi sur cette région disputée. Une nouvelle douloureuse pour le Pakistan qui revendique ce territoire à majorité musulmane. Islamabad renvoie donc l'ambassadeur indien et rappelle celui pakistanais basé à New Delhi. Une réponse diplomatique quasiment naturelle après un tel affront et une procédure récurrente pour ces deux frères ennemis qui se sont déjà menés 4 guerres en 72 ans d'existence. La suspension des relations commerciales est-elle plus rare ? Islamabad refusait jusqu'à présent d'exempter beaucoup de produits indiens de taxes douanières, mais continuait à les recevoir. Il faut dire que les Pakistanais ont davantage besoin de ce commerce que leurs voisins. En valeur marchande, le Pakistan importe 3 fois plus de produits d'Inde qu'il en exporte. Il faudra donc voir si Islamabad pourra maintenir ce blocus pendant longtemps.
Sébastien Farsi, le correspondant de RFI pour France Culture. Au Maroc, les jeunes bénévoles belges, des jeunes femmes venues participer à un chantier d'été dans un village près de Taroudan, ne s'attendaient pas à une telle polémique. Suite à un reportage diffusé sur les réseaux sociaux, un Marocain de 26 ans a appelé à les décapiter via Facebook. Sébastien Berriot, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Cet instituteur a été arrêté en début de semaine et la police marocaine a pris l'affaire en main.
Oui, sur ces images, on voit le groupe de bénévoles en train de travailler sur un chantier humanitaire. Les adolescentes belges réhabilitent un chemin de pierre pour les habitants de Taroudante. Mais un détail n'a pas échappé aux milieux les plus conservateurs. Il fait très chaud et les jeunes filles sont toutes en short, tenues considérées par certains comme indécentes dans un pays musulman. Les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux, parfois très violentes. Message haineux même de cet instituteur de 26 ans, qui a clairement appelé sur Facebook à la décapitation des jeunes bénévoles, faisant référence aux deux touristes scandinaves assassinés l'an passé dans les montagnes au-dessus de Marrakech. La Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui traque en permanence le radicalisme sur Internet, a mis seulement quelques heures pour arrêter l'instituteur. Ses propos sont condamnés par de nombreux Marocains sur les réseaux sociaux, mais sans aller aussi loin dans la violence, ils sont aussi nombreux à dénoncer la tenue des adolescents. Avec l'intervention remarquée d'un parlementaire du PJD, le parti islamiste au pouvoir à Rabat, depuis quand les Européens, s'est-il interrogé sur Facebook, font-ils des travaux en tenue de baignade ?
Et cette affaire relance le débat sur la tenue des touristes étrangers au Maroc.
Oui, contrairement à certains pays musulmans, le Maroc est un pays relativement ouvert en matière de tenue, que ce soit pour les femmes touristes ou même pour les Marocaines. La liberté vestimentaire ne pose pas réellement de grosses difficultés. Les habitants de Marrakech ou encore de Tanger ont l'habitude de croiser des Européennes ou des Américaines en tenue d'été, shorts et t-shirt. Mais c'est vrai que depuis quelques années, avec une islamisation de la société qui est réelle, le voile qui est plus présent chez les Marocaines, certains milieux extrémistes voudraient remettre en cause cette tolérance vestimentaire. Un conservatisme qui reste pour le moment minoritaire et qui surtout se heurte aux réalités économiques. Le Maroc vit du tourisme et ne peut pas se permettre de remettre en cause son image de pays ouvert. Même le gouvernement islamiste ne s'y est jamais risqué.
Les explications de Sébastien Berriot. En Italie, le Sénat a rejeté cet après-midi une motion déposée par le mouvement 5 étoiles. La formation populiste cherche en effet à bloquer le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, chantier dont le coût est évalué à 20 milliards d'euros et qui prévoit le percement d'un tunnel de 58 km à travers les Alpes. Les travaux de ce tunnel ont démarré, mais la controverse ce n'est pas terminé. terminée et elle déchire la coalition de gouvernement, le M5S. Estimant que l'Italie devrait se concentrer sur l'amélioration de son propre réseau et la ligue d'extrême droite de Matteo Salvini soutient le TGV Lyon-Turin en le regardant comme un gisement d'emploi. Au Baléares, la scène s'est reproduite plusieurs fois ces derniers jours. Des militants anti-tourisme vandalisent des voitures de location. La police espagnole a ouvert une enquête contre le mouvement dit ARAN, mouvement de jeunesse d'extrême gauche qui milite à la fois pour l'indépendance de la Catalogne, celle des Baléares et contre le tourisme de masse. Chaque été, ARAN fait parler de lui et publie ses exploits, si l'on peut dire, sur les réseaux sociaux. Marie-Hélène Balestero.
Deux militants, le visage masqué en pleine nuit, en train de crever des pneus, taguer et casser au marteau le pare-brise de voitures de location, le tout sur une musique entraînante des 70s qui respire la joie de vivre. C'est à travers une vidéo diffusée sur son compte Twitter que le collectif ARAN a décidé de passer à l'acte à Palma de Mallorca. Leur cible, cette fois-ci, les voitures de location. Selon eux, il y en a 100 000 qui circulent sur l'île de Mallorca, ce qui provoque la saturation, la pollution et la transformation de la ville en une vitrine touristique. Ces dernières années, ARAN a multiplié les actes de vandalisme en Catalogne et au Baléares pour lutter contre le tourisme de masse. En 2017, par exemple, à Barcelone, ils avaient forcé un autobus touristique à s'arrêter avant de lui crever les pneus et de le taguer. Ce mouvement de contestation soulève la polémique en Espagne alors que le tourisme représente plus de 10% du PIB national et 45% de celui des îles Baléares.
Tariq Ramadan sera entendu l'automne prochain par la justice suisse en France. L'islamologue est visé par une plainte et deux mises en examen pour viol en France. Et une autre plainte a été déposée pour viol et séquestration à Genève. Placé sous contrôle judiciaire, Tariq Ramadan a interdiction de quitter le territoire français. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
C'est donc la justice suisse qui va se déplacer.
C'est une femme qui accuse Tariq Ramadan de l'avoir violé et séquestré dans un hôtel de Genève en octobre 2008. Elle porte plainte presque 10 ans plus tard, en avril 2018, dans le sillage des affaires françaises. Le parquet de Genève ouvre une instruction pour viol et contrainte sexuelle l'automne suivant, sauf que Tariq Ramadan est en France, sous contrôle judiciaire, après avoir été placé en détention provisoire pendant 10 mois, et il a l'interdiction de quitter le territoire. Malgré la demande de la Suisse, les juges d'instruction refusent de lever ce contrôle judiciaire. Ils redoutent que le suspect n'en profite pour s'enfuir à l'étranger. Résultat, le procureur suisse est obligé d'annuler l'audition de Tariq Ramadan à Genève. C'est donc en France que les enquêteurs helvétiques vont finalement venir auditionner le théologien pour cette quatrième plainte qui le vise. Une confrontation avec la plaignante pourrait avoir lieu pour la première fois. Maître Robert Assael est l'un des avocats de la plaignante.
Notre cliente attend ses auditions avec impatience. Elle a réussi après de nombreuses années à sortir de son silence, de son secret pesant. Et depuis le dépôt de la plainte pénale en avril 2018, elle attend de voir un juge. Cela fait 16 mois qu'elle aimerait rencontrer la justice pour expliquer ce qu'elle a vécu, les atrocités subies et finalement d'être reconnue comme victime.
L'audition devrait avoir lieu à l'automne prochain et ce sont les juges français qui vont fixer la date exacte.
Antoine Maret, merci pour vos précisions. Les livreurs à domicile de Deliveroo demandent aux consommateurs de boycotter ce soir la plateforme de livraison de plats à domicile. Ils sont en grève aujourd'hui. Ils organisent une manifestation dans 1 heure, place de la République à Paris. Un rassemblement qui devrait être suivi par un blocage de plusieurs restaurants. La mobilisation a commencé la semaine dernière à cause de la nouvelle grille des tarifs. Le prix des courses en vélo a diminué pour les petites distances. Mais ce n'est pas le seul motif de revendication, Fabien Cazot.
Outre le prix des courses, la colère des livreurs de repas à domicile porte sur les conditions sociales dans lesquelles ils exercent leur activité. Le sujet avait été abordé dans les discussions sur la loi mobilité il y a quelques mois, débat aussitôt refermé à cause du lobbying des plateformes qui les emploient, accusent les livreurs en grève. Pourtant, au sein même de la majorité, certains députés poussent pour la création d'un nouveau statut pour ces travailleurs d'un nouveau genre, comme Aurélien Taché, qui siège à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.
Pendant très longtemps, on a eu des travailleurs indépendants qui étaient en capacité de se protéger eux-mêmes, finalement, par les revenus, le patrimoine qu'ils généraient. je pense bien sûr à la profession classique du commerce, de l'artisanat ou aux professions libérales, mais là, avec ces nouveaux métiers, ces nouveaux statuts de la micro-entreprise, on a souvent des gens qui gagnent des revenus qui sont assez faibles, en tout cas pas suffisamment importants pour pouvoir se protéger eux-mêmes, qui veulent garder cette autonomie, et tout le monde y trouve son compte, ça fait des débouchés d'emploi, ça donne une liberté à ces travailleurs, mais il faut aussi qu'on prévoie des droits sociaux qui soient adaptés.
Il y a deux chantiers en particulier sur lesquels le gouvernement se sait très attendu, des règles d'indemnisation chômage spécifiques pour les salariés au statut d'indépendant et les micro-entrepreneurs, ainsi que de nouvelles garanties en vue de leur future retraite.
Le temps pour demain, jeudi 8 août, marqué par le retour du soleil sur une grande partie du pays, seule la façade ouest sera couverte de la Normandie à la Bretagne avec de la pluie en bord de mer et les températures restent stables dans la matinée. 19 à Cherbourg, 20 à Lille, 22 à Strasbourg et Paris, 25 à Lyon, 26 à Bordeaux et jusqu'à 28 à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.